Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, retour sur la mobilisation des enfants de Don Quichotte qui, pendant l'hiver 2006, ont mis la situation des SDF à la une. Il se trouve qu'hier, la Fondation Abbé Pierre rendait son rapport annuel. Un rapport qui indique, entre autres, que 4 millions de personnes restent mal logées en France. Le même rapport pointe également le surpeuplement dans les logements français. C'est une tendance à la hausse. Pendant l'hiver 2006 et 2007, donc, alors que la campagne présidentielle est déjà lancée, une association inconnue du nom des Enfants de Don Quichotte installe des centaines de tentes au bord du canal Saint-Martin à Paris où se rassemblent 100 domiciles fixes et bien logés. C'est d'abord l'histoire d'une bande d'amis et d'une famille, celle d'Augustin Legrand, lui le comédien qui devient le temps d'un hiver, le nouveau porte-parole des sans-logis, travailleur pauvre, ancien enfant de la DAS, retraité, chômeur, femme seule. C'est l'histoire d'une lutte naïve, parfois, une lutte d'amateurs, souvent, qui s'est construite d'abord sur Internet à l'aide d'un blog, puis par l'action et la parole, et qui a su finalement happer l'attention des médias comme des politiques. 10 ans après, que restait-il de ce mouvement ? Les promesses annoncées aux enfants de Don Quichotte ont-elles été tenues ? La situation des SDF a-t-elle évolué ? Quel est le bilan du droit au logement opposable également ? Notre invité, Christophe Robert, sociologue, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, avec qui nous nous pencherons sur les résultats du rapport rendu hier. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzo, qui s'est rendu place Sainte-Marthe, dans le 10e arrondissement de Paris, à la rencontre d'un SDF, mais pas esselé. Il fédère plus de 20 000 followers sur Twitter. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bullot, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacques-Boviez et Fabrice Lègle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Hiver 1954, le froid tue, mais ce fléau n'est évoqué que par quelques brèves dans la presse. Le 9 janvier de cette année-là, en tournant les pages du journal Le Monde, on peut lire « Sans logis, un bébé de 3 mois ne trouve pour demeure qu'une tombe ». Alors que les Français rangent les décorations de Noël et la vaisselle de la Saint-Sylvestre, à Neuilly-Plaisance, dans la cité des Coquelicots, près Paris, un jeune enfant dénommé Marc meurt de froid entre ses deux parents. Ils ne sont ni vagabonds, ni clochards, non. Donc ce sont des travailleurs, oui, victimes de la crise du logement. Sans toit, ils ont échoué là, dans une carcasse d'autocar rafistolé. La nuit du drame, au même moment à l'Assemblée nationale, les députés rejettent un amendement qui demande le déblocage d'1 milliard de francs pour la construction de logements d'urgence proposés par un abbé de Neuilly-Plaisance. Voilà 5 ans que cet homme, ancien résistant et ancien député qu'on appelle l'abbé Pierre, a créé une maison, celle des compagnons d'Emmaüs, pour venir en aide aux plus démunis. Depuis cette date, il essaie de convaincre l'opinion et le législateur de la nécessité de leur venir en aide, de créer des logements d'urgence pour que personne n'ait à dormir dans la rue. Mais pour l'instant, il est seul. Le 31 janvier 1954, quelques semaines après le refus de l'Assemblée, entre deux messes, on informe l'abbé d'un nouveau drame. La veille, une femme a été retrouvée morte sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Dans sa main droite, elle tenait encore l'arrêté d'expulsion. À l'aide d'un ami, l'abbé Pierre griffonne un appel à la solidarité. Il le dicte au rédacteur du journal Parler, puis prend la route des studios de Radio Luxembourg. À 13h, les Français entendent ces mots.
Mes amis, au secours, une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
Ce 1er février 1954, grâce à la radio, l'abbé Pierre entre dans le foyer de tous les Français. Quelques heures après cet appel, à l'hôtel Rochester, où il a donné rendez-vous, c'est une file indienne improbable et sans fin d'élégantes et de ménagères, d'ouvriers et d'employés qui viennent déposer des boîtes de conserve, des couvertures, du bois de chauffe, des habits pour les sans-logis. À partir de cette date, chaque soir, ils sont des centaines à rejoindre le sommet de la montagne Sainte-Geneviève, où une grande tente a été disposée pour accueillir les malheureux et les bénévoles. Chaque nuit, des convois de voitures, de taxis ou de bus sillonnent les rues à la recherche des « couches d'or », comme l'abbé Pierre aime les appeler. Les jours et les semaines passent et l'insurrection de la bonté, selon la formule de l'abbé encore, se poursuit. En plus des dons les plus divers et des coups de main du soir, ce sont les chèques d'anonymes ou de personnalités comme Charles de Gaulle, Vincent Auriol et même Charlie Chaplin qui arrivent par centaines au guichet de l'hôtel Rochester, devenu le temps de cet hiver, le PC de secours des 100 logis. Face à l'émotion et à la réaction de générosité, le gouvernement élabore, à la hâte, un plan d'urgence pour la construction de 12 000 logements. Le temps d'un hiver, les 100 logis sont sortis de l'ombre. 52 ans plus tard, le 16 décembre 2006, alors que Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal débutent leur campagne pour la présidentielle, un grand homme longiligne, à la barbe fine et aux cheveux courts, crie de nouveau au secours, au nom des 100 logis, son nom, Augustin Legrand.
Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on réclame? On réclame des toits adaptés pour tous les SDF qui dorment dehors. On réclame la fermeture des centres d'hébergement d'urgence, qui sont insalubres, inadaptés. En centre d'hébergement d'urgence, on n'a pas de domicile, on peut pas trouver un travail, on peut pas refaire ses papiers. Les SDF en France aujourd'hui ont 43 ans d'espérance de vie et on fait un appel à tous, à nous rejoindre pour camper par solidarité ce soir, demain soir, après-demain soir. Tous les Français dorment dehors par solidarité. Merci.
Sur un pont du canal Saint-Martin à Paris, sous une pluie fine et froide, devant des dizaines de tentes rouges plantées les unes après les autres sur le pavé, Augustin Legrand et ses enfants de Don Quichotte projettent à partir de ce jour de décembre 2006 la lumière et les regards sur la situation des sans-abri. Et ils en font l'un des sujets importants de la campagne présidentielle de 2007. Les Français ont-ils répondu à leur appel? L'aventure des Don Quichotte commence à la fin du mois d'octobre 2006. Accompagné de deux amis, Augustin Legrand dort pour la première fois dehors. Ils ne sont ni SDF, ni chômeurs, ni travailleurs pauvres, mais ils décident de dormir auprès des sans-abri, de vivre ces nuits dans le froid et l'insécurité pour comprendre leur situation, récolter leurs paroles. Car habituellement, notre rapport avec les sans-domicile fixe se limite souvent à baisser la tête, à chercher quelques pièces au fond d'une poche et parfois à prendre un peu de temps pour leur parler, les aider. Augustin Legrand leur a toujours parlé, mais désormais il veut faire plus. L'idée des enfants de Don Quichotte est peut-être née pendant l'été 2005, quand à l'ouverture de Paris-Plage, la ville a prié les SDF de sortir du cadre de la photo. Quelques mois plus tôt, pendant l'hiver 2005, l'ONG Médecins du Monde avait profité d'une nouvelle invention baptisée la tente 2 secondes pour lancer une opération humanitaire dans la capitale. À défaut d'un toit, MDM offrait une toile aux SDF pour qu'ils se protègent des intempéries, mais aussi pour que les passants les voient désormais. Chaque jour, sous les ponts et les berges de la Seine, on remarque une, deux, puis trois, quatre, cinq tentes en file indienne. Grâce à elles, la misère imprègne le territoire et sort de l'ombre. Et pendant l'été 2006, sur les quais, l'heure est aux festivités dans la capitale. Alors on demande à ces gens de quitter les lieux. La mairie, ainsi que le gouvernement, par la voix de sa ministre déléguée à la cohésion sociale, Catherine Vautrin, annonce l'ouverture de nouvelles places d'hébergement et convoque le banc et l'arrière-ban des associations. Une mission sur la situation des SDF de Paris est donc mise en place. À la rentrée, le rapport est rendu public et met en avant les mauvaises conditions d'accueil dans l'hébergement d'urgence, l'insécurité, le manque d'hygiène et d'intimité, ainsi que l'impossibilité de rester plusieurs jours dans un centre, ce qui rejette de facto les victimes dans la rue. Face à cela, Catherine Vautrin annonce l'ouverture de 1100 places supplémentaires dites de « stabilisation » d'ici la fin de l'année. Entre-temps, Augustin et ses compagnons lancent l'idée des enfants de Don Quichotte. Comme le héros des Cervantes, ce comédien et ses amis sont des rêveurs idéalistes, un peu fous sans doute, car aucun n'est du sérail de l'humanitaire ou des associations. Quand ils partent en route, le chemin n'est pas véritablement connu. Ils ont une caméra, un peu d'argent prêté par des amis, et un site web sur lequel on peut lire ces mots. Seront appelés enfants de Don Quichotte tous les hommes et femmes décidés à se mettre en danger pour combattre l'injustice sociale et restaurer la dignité des personnes, décidés à se mettre en danger pour sauver les principes fondateurs de notre démocratie et faire respecter les droits humains élémentaires. À partir d'octobre, ils dorment chaque soir dehors. Lors de leur première nuit, c'est près de la banque postale du Louvre que les SDF donnent les premiers conseils pour le choix du carton, l'emplacement où se poser et l'heure où il faut quitter les lieux. Jour après jour, les enfants de Don Quichotte les interrogent, enregistrent leurs paroles, puis les publient sur Dailymotion. Lui, par exemple, il s'appelle Stéphane, il a 18 ans. Il a vécu 2 ans dans la rue, a connu le foyer, la violence contre sa mère, puis il a sombré dans la rue.
Ben voilà, je m'appelle Stéphane, j'ai 18 ans. Je me suis retrouvé dehors parce qu'avant, ma mère, elle avait un logement, mais depuis que son mari l'a quitté, elle avait pété un plomb. Moi, j'étais dans un foyer pendant 2 mois. Ma mère a été restée un peu, puis après, ça s'est mal passé, donc elle a été dans la rue. Et moi, je voulais pas laisser ma mère dans la rue, donc je l'ai suivie. Et voilà, et moi, le métier que je veux faire, c'est... Mais j'ai pas de diplôme, c'est n'importe quoi. Un mécanicien ouvrier, n'importe quoi. Voilà. Et là, ma vie dans la rue, franchement, c'est la merde. Surtout quand le plus difficile, c'est les gens qui t'ignorent quand tu leur parles. C'est la rue qui me rend violent. C'est quand tous ces connards, ils passent, ils t'insultent, ils te disent t'es un clochard, t'es ceci, t'es cela. Tu leur demandes une pièce, ils disent va travailler, jeune con. Et s'ils croient, si j'aurais dû travailler, j'aurais déjà été travailler. Et mon pote, je vais travailler comme ça. Le patron va me faire écaser.
Pendant 6 semaines, Augustin et ses premiers enfants de Don Quichotte arpentent la capitale, rencontrent des jeunes gens qui ont perdu des parents avant de perdre leur toit et qui ne peuvent trouver un travail, évidemment, sans un numéro ou une adresse à indiquer sur un CV. Ils écoutent aussi les histoires de ces retraités qui, après des années à travailler, ne peuvent plus vivre dans un logement à Paris et ils enragent devant la précarité des travailleurs pauvres. Le parcours de ces hommes et de ces femmes au corps ou à l'esprit malade qui ne peuvent être soignés. En novembre, les enfants de Don Quichotte rencontrent, par exemple, Momo, 67 ans, la chevelure longue et blanche, le mot fier.
J'ai fait l'armée française, j'ai été commandant français, et maintenant c'est à la merde. C'est quoi ça? Je suis SDF, je suis à la rue, ça fait 15 ans que je suis à la rue, et j'ai dormi 8 mois à l'avenue de Ménil, et
j'ai téléphoné
au Sam Sucé, il n'y a pas de place. À 63 ans, il n'y a pas de place.
Quand la nuit tombe et que les magasins ferment, ils sont des centaines à sortir des bouches de métro, des bibliothèques ou des grands magasins. Ils prennent un carton sec, puis s'installent seuls ou avec un ou deux compagnons d'infortune, jusqu'à l'heure où le métro et la ville se réveillent. La petite idée des enfants de Don Quichotte est simple. Pour être entendu, il faut que ces hommes et ces femmes sans abri se rassemblent dans un lieu, une place symbolique, que les bien logés les accompagnent et qu'ensemble, ils exigent des solutions durables pour que l'État, comme le précise le préambule de la Constitution de 1946, garantisse, je cite un au mot près, à tout être humain qui en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique et qui se trouve dans l'incapacité de travailler ait le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenable d'existence. Pendant tout le mois de novembre, les premiers enfants de Don Quichotte impriment des flyers qu'ils distribuent aux SDF, mais aussi aux bien logés. Ils leur donnent rendez-vous dans un lieu symbolique le 2 décembre. Malheureusement, si Paris n'a pas assez de toits pour ses démunis, ses murs ont des oreilles. Et quand Augustin et ses compagnons arrivent à la Concorde, les CRS les attendent. Ils partent alors vers la Bastille. Là, même tableau, circulez. Mais 14 jours plus tard, ce sont les forces de l'ordre qui sont prises de court. À 11h, le 16 décembre 2006, plusieurs dizaines de bien logés et de SDF sortent d'un immeuble du quai Jemap, une tente rouge dans la main. En quelques minutes, ils en installent une centaine sur le bord du canal.
Allez, on tire sa tente, les gars.
Chacun tient sa tente. Sur certaines d'entre elles, on peut lire SDF. La police laisse faire, les caméras débarquent. Le 17 décembre, les tentes des enfants de Don Quichotte font l'ouverture des 20h. Le 18, Jean Rochefort, le Don Quichotte maudit de Terry Gilliam, comme un symbole, est sur place.
Ça doit disparaître et le plus vite possible. Il faut que ces gens-là aient le plus vite possible un domicile. Avoir un domicile, c'est reprendre confiance en soi et c'est exister à nouveau. Et c'est sauver des gens. Il y a 2 choses qui me révoltent en France, entre autres, ce sont nos prisons et ce sont les SDF. Tout ça n'est pas possible. J'ai passé quelques décennies sur la planète et c'est l'âge de la révolte maintenant. C'est de dire, merde, je vais pas partir alors que ça perdure, c'est pas possible.
À côté de Jean Rochefort, ils sont des centaines, inconnus ou non, à se relayer sur le canal pour amener un peu de nourriture, des couvertures ou pour dormir auprès d'eux, une nuit, voire plus. Les jours passent, la vie s'organise entre conférences de presse, distribution de vivres. À quelques kilomètres de là, dans les couloirs du ministère de la Cohésion sociale, on réagit d'abord froidement à cette opération. Sa ministre, Catherine Vautrin, la qualifie de poudre aux yeux. Oui, selon elle, cette association inconnue jusqu'alors ne propose rien pour combattre l'exclusion de ces gens. Le lendemain, Augustin Legrand lui répond.
On fait croire que les centres d'hébergement d'urgence, ça respecte les principes de dignité humaine qui sont inscrits dans la Constitution, c'est faux. Toutes les associations le disent. Moi, je suis désolé. Il faut des logements adaptés pour ces gens-là. Et si on leur propose des logements adaptés, ils iront dans ces logements adaptés. Alors, je comprends pas. Ces gens-là, ils peuvent être réinsérés. Nous, on a des alcooliques sur le campement. On a des toxicomanes sur le campement. Depuis qu'ils sont là, qu'ils ont une fonction, qu'ils sont responsables et qu'ils ont un espoir, ils ont diminué leur consommation d'alcool par 3. Ici, en été, il y a 10, 40 plaintes tous les soirs de riverains pour potapage nocturne. Là, depuis qu'on est arrivé, il y a eu 0 plainte. Ces gens, ils sont capables d'être propres, dignes, silencieux. Il suffit juste qu'ils aient un espoir. Là, on leur donne un espoir. Moi, ce que je veux, c'est un nouvel hiver 54. Pacifique, digne, que les bien logés, que les logés sortent dehors avec des tentes, s'installent, ils seront en sécurité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur.
En quelques jours, les enfants de Don Quichotte squattent les journaux de la radio, 7h, 8h, 13h, 20h, 22h. Augustin Legrand, le comédien, devient porte-parole sur les plateaux de télé. Il passe du canal à Canal+, des studios de radio à ceux de chaînes d'information, et grâce à eux, les SDF racontent les conditions de vie dans les centres d'hébergement d'urgence dans lesquels l'on ne peut demeurer que quelques jours. Ils décrivent des lieux insalubres et souvent dangereux. Ces hébergements ne sont que des toits d'urgence quand le froid est trop vif, mais rien n'est fait pour qu'ils quittent la rue, qu'ils trouvent un travail ou qu'ils se soignent. Face à cette mobilisation, les travailleurs sociaux et les professionnels associatifs qui viennent en aide aux SDF depuis des décennies sont d'abord sceptiques, puis ils acceptent de rencontrer cette nouvelle association. Alors, ensemble, le 24 décembre, ils rédigent une charte de propositions qui fait consensus et qui dépasse les logiques divergentes. Article 1. Ouvrir les structures d'hébergement 24 heures sur 24. Article 2. Tout accueil en hébergement doit mener à une solution stable. Article 3. Créer immédiatement une offre de logement temporaire. Article 6. Rendre le droit au logement opposable sur tout le territoire. Deux jours après Noël, les candidats à la présidentielle entrent dans la danse. Et c'est Nicolas Sarkozy qui prend position le premier. Via une lettre envoyée à la presse, le président de l'UMP qualifie d'échec indigne de notre pays le fait que plusieurs milliers de personnes soient sans abri et il annonce qu'il charge l'avocat Arnaud Klarsfeld d'une mission sur la situation des SDF. Ségolène Royal, elle, hésite. À l'inverse de son adversaire, qui à l'automne avait déjà promis le zéro SDF, elle se refuse de prendre un engagement qu'elle ne pourra pas tenir. Au sein de son programme, il y a à peine une trentaine de lignes sur le logement, d'ailleurs. Le même jour, c'est la ministre de la Cohésion sociale qui annonce des premières mesures, dont l'élargissement de la durée des plages horaires des centres d'urgence la semaine et l'ouverture 24 heures sur 24 le week-end. Elle promet également de multiplier par 3 les places dites de stabilisation dans les mois qui viennent. Le 31 décembre 2006, lors des traditionnels vœux de fin d'année, le président de la République confirme la tendance. Ce soir-là, ils sont des centaines à se regrouper sous une grande toile installée aux abords du canal pour célébrer la nouvelle année et pour écouter le président faire une annonce inattendue.
D'ici aux élections, j'aurai une double exigence. Que le gouvernement soit au travail, à votre service, pour la sécurité, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, et que ces mois soient aussi des moments de débat ouverts, démocratiques et responsables. En donnant toute sa place au dialogue social, des réformes importantes sont devant nous, pour aller beaucoup plus loin dans la baisse du chômage, pour faire de la participation un véritable projet de société, pour donner plus de puissance à nos entreprises, pour mettre en place un véritable droit au logement opposable, c'est-à-dire faire du droit au logement une réalité. Et je demande au gouvernement d'avancer sur ce point dans les toutes prochaines semaines.
Est-ce que ces vœux seront tenus avant la fin du mandat de Jacques Chirac ? Quand les tantes quitteront-elles le canal Saint-Martin ? Quand les enfants de Don Quichotte rentreront-ils chez eux ? Autrement dit, et c'est bien là la question centrale, les SDF retrouveront-ils un toit ?
Canal Saint-Martin au ministère de la Cohésion sociale, les enfants de Don Quichotte ont fait une grande enjambée hier. Au terme d'une rencontre de plus de 4 heures avec Jean-Louis Borloo, leur charte a été adoptée. Elle réclamait l'ouverture en continu des structures d'accueil pour les SDF, l'augmentation du nombre de logements sociaux et l'instauration d'un droit au logement opposable, pari réussi.
Moi je suis là pour faire la révolution, je suis pas là pour, pour savoir si c'est bon ou pas. Maintenant, je crois qu'on a des techniciens là-haut qui sont avec nous et qui sont assez forts et qui disent que c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Voilà, maintenant, on attend de voir. Je vous dis, si c'est pas ou mal appliqué, là, c'est pas des tentes qu'on va mettre sur le canal Saint-Martin, on va mettre des magalos.
Allez, on fait.
En quelques semaines, les tentes du canal Saint-Martin à Paris font des émules dans les villes de France. Quelques-unes, ici et là, émergent à Nice, Lyon, Aix... Cette Lille avec plus ou moins de succès, c'est vrai, mais l'initiative est là, tout de même. Pendant que le logement et la situation des SDF deviennent un sujet désormais abordé dans les meetings des candidats à la présidentielle, le gouvernement reçoit, consulte, écoute pour imaginer une sortie de crise. Le 3 janvier, le Premier ministre Dominique de Villepin présente en conférence de presse son projet de droit au logement opposable. Il propose que la mesure soit effective dès la fin de l'année 2008. À cette date, ce nouveau droit ne bénéficiera qu'aux personnes les plus vulnérables, SDF, travailleurs pauvres, femmes isolées avec enfants. Les pouvoirs publics seront tenus de leur donner un toit. Si l'État ne trouve pas de solution, il pourra être poursuivi devant la justice administrative. En 2012, la mesure s'étendra à l'ensemble des personnes logées dans des habitations insalubres ou indignes. Le 8 janvier 2007, le ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, présente son plan en faveur des SDF. Il promet la création de 27 100 places pérennes, dont 3000 logements HLM attribués prioritairement aux SDF, 9000 places dans les maisons relais, 4500 dans les centres d'hébergement et de réinsertion, 5000 dans les centres d'hébergement de stabilisation avec chambres de deux personnes ou individuelles, ouvertes 24 heures sur 24. Après ces annonces, les différentes associations saluent les avancées et le changement radical de la politique du gouvernement. Après 23 jours d'occupation du canal, Augustin Legrand demande la levée du camp.
Un changement radical de politique concernant les sans-abri et la certitude qu'un droit au logement opposable sera adopté prochainement dans un vrai esprit de consensus politique et associatif nous conduit à une sortie de crise immédiate. Il s'agit d'un contrat de confiance, un plan d'urgence est mis en œuvre dès aujourd'hui, et nous démarrons immédiatement le processus qui nous conduira le plus vite possible à la fin des campements. Alors moi j'ai un avion à prendre dans une heure, j'étais obligé de vous abandonner les amis. Merci à tous les SDF, merci à tous les amis sur le campement, et puis merci à la presse pour ce tsunami médiatique qui a permis cette prise de conscience collective.
Dans les jours qui suivent, les tentes ne quittent pas les lieux. Car pour certains SDF, les promesses ne sont, pour l'instant, que des mots. Eux souhaitent des actes et des moyens pour quitter la rue. Certains acceptent la chambre d'hôtel, le départ pour un hébergement de stabilisation. D'autres ne reçoivent que des réponses non adaptées et refusent alors de quitter la rue. Les Don Quichotte décident donc de rester. Si Augustin est désormais en tournage en Afrique du Sud, c'est son frère Jean-Baptiste, président de l'association et présent depuis le premier jour, qui prend la relève, qui fait le lien avec les gens du canal et les autorités, qui discute, qui imagine des solutions. Mais le 22 janvier, comme un signe du destin, c'est une triste nouvelle qu'apprennent les gens du canal. À 94 ans, ce jour d'hiver 2007, l'apôtre de la charité s'en est allé. L'abbé Pierre est mort. Sur le canal, on interroge Jean-Baptiste Legrand.
Beaucoup l'ont appris au réveil avec l'arrivée des caméras. Mais Denis, lui, l'a appris par un automobiliste qui a baissé sa vitre ce matin pour le lui dire. L'abbé Pierre est mort. Il va manquer à tous les sans-abri et à tous ceux qui aujourd'hui les aident à s'en sortir. C'est un symbole qui est parti ce matin, explique Jean-Baptiste Legrand, le porte-parole des Don Quichotte.
C'est quelqu'un qui s'est battu énormément pour les sans-abri, pour les SDF. Et je crois que c'est pas anodin qu'aujourd'hui il s'éteigne. Je pense qu'il faut vraiment continuer la lutte, il faut reprendre son combat, il faut faire en sorte que les gens aujourd'hui comprennent qu'il y a un vrai problème, que l'exclusion c'est quelque chose de grave. Et oui, on n'a pas réussi à recréer l'hiver 54, c'est sûr, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse emballée médiatique, mais au niveau citoyen, les gens finalement se sont pas mobilisés comme nous on l'espérait. Quand on disait qu'on voulait l'hiver 54, on voulait 100 000 personnes dans la rue qui disent oui, on en a marre, on en a eu quelques milliers, ce qui est bien. Mais malheureusement, est-ce qu'on a encore le courage qu'a eu l'abbé Pierre à ce moment-là? C'est pas sûr.
Après deux mois de mobilisation et d'annonces, le mouvement oscille entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Car si les caméras et les micros ont été présents en masse, c'est vrai, les Français, eux, n'ont été qu'une poignée à descendre dans la rue, à dormir auprès des sans-abri ou à les inviter chez eux. Le président, lui, a fait des promesses, celles d'une loi qu'il souhaite promulguer avant son départ. Le 21 février, le texte instituant un droit au logement opposable est voté à l'Assemblée. Les députés UMP et UDF ont voté pour, la gauche s'est abstenue. Le 5 mars 2007, la loi est publiée, le droit au logement opposable devient une réalité. Quelques semaines plus tard, via un communiqué de presse, Jean-Baptiste Legrand annonce que les enfants de Don Quichotte se retirent du canal Saint-Martin et indique, je cite, « Certes, tout n'a pas été réglé, des milliers de sans-abri continuent à dormir dans nos rues dans des conditions indignes, mais le pas qui a été franchi cet hiver est cependant un pas majeur dans l'accueil des SDF et la loi sur le droit au logement opposable permet d'espérer un avenir meilleur. » Le printemps pointe son nez, Jacques Chirac quitte l'Élysée, Nicolas Sarkozy le remplace. Quelle sera la situation dès que le froid reviendra? À la rentrée de septembre 2007, alors que la période politique est à l'ouverture, on apprend dans la presse que Christine Boutin, nouvelle ministre du Logement et de la Ville, a proposé à Augustin Legrand d'intégrer son cabinet. L'homme a rejeté l'invitation et déclaré dans la presse qu'il ne pensait pas être le meilleur pilote pour le plan Grand Froid, mais il le promet, il restera vigilant quant à la mise en place des promesses du début d'année. À la fin du mois de septembre, il manque encore 14 000 places d'hébergement sur les 27 000 promises par le gouvernement. Fin octobre, son association adresse une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy pour lui demander d'accorder un budget supplémentaire d'au moins 1 milliard pour le logement et l'hébergement. Le 2 décembre, dans un entretien au journal du dimanche, Augustin Legrand menace cette fois le gouvernement d'installer un nouveau camp pour mettre à l'abri ce que l'État abandonne de nouveau. Le 15 décembre 2007, la veille de la date anniversaire de l'installation des tentes au bord du canal Saint-Martin, ils sont des dizaines en déplié, des rouges, aux abords de Notre-Dame. La presse est là, tout comme la police. On encercle ceux qui viennent de s'installer, certains tombent à l'eau. L'opération n'aura pas duré une heure et dans une violence rare. À 13h, sur le plateau de France 3, Augustin Legrand réagit à cette évacuation.
Absolument, on est choqués, il y a des gens qui sont tombés à l'eau, il y a des femmes qui se sont fait taper, il y a la lacrymo qui a été faite au bord de l'eau. C'est un scandale, on porte un diagnostic, qui est le diagnostic des associations, on porte les diagnostics des experts qui ont été posés sur le bureau de M. Sarkozy, 37 mesures, pour éviter qu'il y ait des nouveaux sans-abri cette année, pour que le droit au logement opposable soit applicable, et notamment... pas juste un outil juridique pour qu'il y ait 800 000 demandeurs en 2008 et 60 000 logements en face. Madame Boutin nous parle d'un tableau de bord, elle nous parle de nouvelles mesures. Rien n'est chiffré, rien n'apparaît dans la loi de finances. Est-ce que c'est normal? C'était des promesses qui ont été faites, la larme à l'œil l'an dernier. Madame Boutin est venue sur le canal en pleurant. Sur les 27 100 places, il n'y en aura que 14 000 de disponibles à la fin de l'année. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que sous prétexte que ces gens n'aient pas de voix? Est-ce que c'est normal que sous prétexte que ces gens ne soient pas représentés et qu'ils puissent pas brûler des bateaux ou bloquer des universités, on ne tienne pas ces promesses?
Le lendemain, le gouvernement annonce qu'il recevra dans les prochains jours les différentes associations d'aide aux sans-abri. L'hiver revient, la neige tombe, comme les annonces, mais dehors encore dans des tentes, sous des ponts ou sur les bords du périphérique, des hommes, des femmes et des enfants vivent dans la rue. Alors, on se souvient des premières vidéos des enfants de Don Quichotte diffusées sur leur site internet, portant entre autres le témoignage de Lisiane.
De temps en temps, je suis SDF, pas toujours, mais de temps en temps.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, j'ai eu des dettes, je pense que c'est ça vient de là finalement, j'ai eu presque 20 millions de dettes, j'ai eu des difficultés, j'ai perdu mon travail.
Vous auriez pu imaginer un jour que vous seriez tombé SDF?
Ah non, pas du tout, non, non, en toute vérité, non, pas du tout. Je pense que d'être SDF, il y a un côté qui est très chaleureux quand même, entre les gens, qu'on ne voit pas à l'extérieur. Vous savez, tout le monde se donne dans la main en tant qu'SDF, et ça c'est formidable, quelqu'un qui est... Parce qu'on ne doit pas juger quelqu'un qui a eu des problèmes. Parce que c'est trop facile à mettre une étiquette sur quelqu'un qui dit « Merde, elle n'a pas réussi, ça y est, elle a eu des échecs. » Et vous dites « Pourquoi j'ai eu tant d'échecs dans la vie ?» C'est peut-être moi qui a mal géré ma vie ou quoi que ce soit. Il y a peut-être quelque chose qui n'allait plus, quoi. Des gens sensibles, vous savez, il faut peu de choses hein, pour les... C'est pour ça qu'il faut être fort. Moi, je sais que je suis très sensible parce que moi, le moindre truc, je me mettrais à pleurer. Mais je me dis « Il faut être forte !»
Qu'êtes-vous devenu Lisiane? Et vous, Stéphane, Momo, Marc, Francky, Ahmed, Jean, où passerez-vous la nuit cet hiver? Les enfants de Don Quichotte espéraient un nouvel hiver 54. La misère a répondu présent, le gouvernement et les Français, un peu moins.
Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel. Au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressens le chagrin. Ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé. Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tout nu. Paris, Paris, perdu. Paris, tu m'as laissé sur ton pavé.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les enfants de Don Quichotte avec notre invité Christophe Robert. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, je le rappelle aux auditeurs, vous êtes sociologue et délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Il se trouve que vous avez rendu votre rapport annuel hier. Et je retiens deux grands enseignements, hein, c'est que près de 15 millions de personnes sont touchées à un titre ou à un autre, donc plus ou moins gravement, par la crise du logement. Et votre rapport met l'accent sur l'une des formes de mal-logement les plus difficiles à vivre, le surpeuplement quand on est entassé à beaucoup de personnes dans de pauvres logements. Mais ça, on y reviendra en deuxième partie d'interview, Christophe Robert. Je voudrais savoir d'abord quel est votre regard sur l'action des enfants de Don Quichotte dont nous avons raconté l'histoire, que dis-je, l'épopée.
Un regard plutôt positif, et on a bien connu les frères Legrand.
Moi, bah, j'imagine.
Et encore aujourd'hui, les frères continuent à agir dans une association qui s'appelle Les Enfants du Canal, qui est née de la suite des Enfants de Don Quichotte, et que la Fondation Abbé Pierre soutient, par exemple. Pourquoi un regard extrêmement positif? Parce que on s'en sortira pas de cette crise du logement et des difficultés que rencontrent tous ceux qui sont à la rue, du scandale, finalement. Pour un pays riche comme le nôtre, s'il n'y a pas une mobilisation citoyenne. Bien sincèrement. La Fondation Abbé Pierre, elle, par exemple, grâce à la générosité de donateurs, parce qu'elle n'a pas de subvention, elle agit, elle finance des projets d'associations, elle interpelle, comme elle le fait hier avec le rapport mal-logement, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, parce que, de fait, ce sont des sans-voix qui sont concernés. Ce sont des personnes qui, au regard d'un certain nombre de représentants de nature diverse, pas seulement politiques, mais aussi politiques, ne compte pas. Et j'aurais pas dit ça il y a 7-8 ans, mais aujourd'hui, je le constate. Et donc, il faut qu'on arrive à mobiliser nos concitoyens pour qu'ils disent « Moi, je ne veux pas de ça.
Voilà. » Je veux que ça s'arrête. Que c'est une atteinte à la dignité d'un pays développé que la pauvreté. Finalement.
Exactement. Et vous le rappelez dans ce reportage d'il y a 2 ans, c'est-à-dire que vous commentiez en disant « C'est une atteinte aux droits fondamentaux. » Et qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants de Don Quichotte? C'était pas des personnes qui voulaient créer des associations, qui voulaient avoir une carrière politique. C'est que spontanément, ils se disaient « mais c'est fou !» Et comme ils avaient une force individuelle, personnelle, Augustin Legrand, son
frère... Oui, il faut toujours une incarnation, et c'est bien d'ailleurs. Hein.
Et ça a pris, c'est-à-dire qu'ils se sont dit mais il y avait de la sincérité, si vous voulez. La sincérité de la spontanéité. Et du coup, vous dites pas « ouais, mais qu'est-ce que les uns et les autres vont penser, les associations ?» C'est dit dans le reportage. Ou « qu'est-ce que vont penser les politiques ?» C'est pas la question. La question, c'est qu'il y a des gens qui sont dans la rue, dans un pays riche, et que, évidemment, c'est pas inéluctable, c'est pas une fatalité. Donc, si on veut faire autrement, on peut faire autrement.
Et puis, il y avait la force du symbole qui était bien vue, quand même, celle des tentes.
Oui, alors, c'est devenu un symbole, mais c'était une protection.
Bien sûr. Non, mais il y a à la fois, effectivement, métaphore et réalité.
Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en réalité, c'était incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que, en France, bien sûr, ça a occupé devant de la scène pendant très longtemps, mais aussi à l'étranger. Donc tout d'un coup, c'était l'image de la France.
Voilà.
Cette France qui laisse des personnes à la rue. Cette France, c'est pays des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il y avait des gens qui venaient, des journalistes de différents horizons, de différents pays, dire « mais enfin, c'est incroyable ce qui se passe ». Et c'est vrai que je ne pense pas que ça ait été prémédité, mais la mise en scène, visuellement aussi, de toutes ces tentes sur le canal... Et en même temps, il y avait quelque chose qui était réfléchi. Si on se met là, on ne pourra pas se faire charger par les policiers parce qu'il y a un risque de tomber à l'eau.
Oui.
Et donc, voilà, c'était pas plus pensé que ça stratégiquement. Là, il y avait une petite stratégie.
C'était bien vu quand même parce que la tente, effectivement, elle protège. Et on s'est dit en même temps, mais il y a des gens qui vivent sous des tentes. Donc c'était à double ressort comme ça. C'était
tout
c'était
à fait
vraiment bien vu.
Tout à fait. Mais je crois vraiment, très sincèrement. Et après, il est arrivé de faire le Tour de France avec Augustin Legrand pour sensibiliser après sur le droit au logement opposable.
Alors, on va y venir justement, qui était la grande conquête de cette affaire-là.
Et très, très sincèrement, c'était spontané et beaucoup, c'est surtout la sincérité qui fait que ça a eu cette audience.
Droit au logement imposable, quel bilan on peut tirer de cette mesure qui était un peu compliquée d'ailleurs au départ quand elle a été exposée. Alors après, il y a eu un travail de pédagogie, d'explication, on a compris. Mais cette idée-là, elle était compliquée. Qu'est-ce qu'elle a donné au bout du compte?
Alors, elle était compliquée parce que ça renvoie à quoi? C'est l'idée de dire l'État qui a une responsabilité au titre des droits fondamentaux et le droit au logement notamment, n'est plus dans une seule obligation de moyens. Je dois mettre des moyens pour sortir les personnes à la rue ou les mal logés. Je dois être dans une obligation de résultat. Et donc, quand je dis obligation de résultat, c'est que si jamais je ne donne pas satisfaction aux personnes concernées, je peux être soumis
opposé
au tribunal administratif.
À une opposition.
Exactement. Bon, les chiffres, c'est quoi? Ça a permis, parmi les 5 catégories de ménages prioritaires au titre du droit au logement imposable, de reloger 125 000 personnes depuis. C'est beaucoup, dans le sens où c'est sans doute une partie de ménages qui n'aurait pas trouvé de solution s'il n'y avait pas eu ce droit au logement imposable. Que nous, on accompagne ces personnes. Et on fait valoir devant les juridictions de dire, mais vraiment, la loi le dit, vous devez le faire. Autrement, vous paierez, vous, l'État. Donc, mais en même temps, évidemment, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et à l'époque, on disait, on n'est pas naïf, ça va être un levier, mais ce n'est pas les juges qui vont construire les logements dont on a besoin. Et ce dont on a besoin, c'est de logements moins chers.
Donc la réalité est conforme à ce que vous aviez imaginé lorsque Dalloz est sorti, quoi.
Oui, c'est-à-dire un levier d'action pour les plus défavorisés. En fait, par exemple, ça permet des personnes, par exemple, qui peuvent être discriminées dans l'accès au logement, pour plein de raisons. Leur situation sociale, familiale, leur couleur de peau, je ne sais pas quoi, de les remettre en haut de la pile. On dirait, vous l'avez oublié, mais la loi, elle dit que si vous êtes à 10 dans 10 mètres carrés, dans un logement complètement pourri, qui est l'œuvre d'un marchand de sommeil, eh bien, vous avez l'obligation de reloger. Donc ça a permis de recibler quelque part. Mais la réforme structurelle qui permettrait de dire aujourd'hui, ça y est, on a gagné la bataille, elle n'a pas eu lieu.
Alors, je vous présente Annaëlle Verzeau-Christophe Robert.
Bonjour.
Annaëlle Verzeau est notre reporter. Annaëlle, bonjour. Vous avez passé une journée avec un SDF. Alors, peu ordinaire, peut-être d'ailleurs le SDF le plus connu de France. La preuve, sur Twitter, il est suivi par plus de 23 000 personnes.
Ouais, il tient une sorte de journal de rue sur Twitter. Il dit que l'instantané de la rue correspond bien à l'instantané de Twitter. Et il s'est surtout fait connaître après avoir obtenu le retrait d'un dispositif anti-SDF dans le 19e arrondissement, le jour de Noël. Il a 44 ans, il est sans domicile fixe depuis 3 ans.
Alors, il est né à Versailles, il a la double nationalité, franco-suisse. Avant de se retrouver à la rue, il était sommelier. Alors, il vivait bien, enfin, il vivait quoi, avec un salaire de 2000 euros par mois.
Et tout s'est effondré quand sa femme et lui se sont séparés. Christian a fait une dépression lourde, il a démissionné de son travail, puis s'est retrouvé sans logement.
Et pourtant, il a effectué toutes les démarches nécessaires auprès des services sociaux pour garder un logement. Alors, aujourd'hui, il vit avec le RSA, hein, c'est ça?
Oui, et toute sa vie est contenue dans son sac à dos, sa chambre dans une poche, son bureau dans une autre.
Et à quoi ressemble son quotidien? Bien, on va l'écouter.
Christian, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, mademoiselle.
On est dans votre quartier, Place Sainte-Marthe, à Paris.
Tout à fait.
Là, en face de nous, il y a un bar à tapas, une ébénisterie qui a l'air fermée.
Hey, yes, man!
C'est la poste.
Ouais, et c'est un rasta qui est super cool.
Ouais.
C'est l'entraide dans le quartier.
Ouais, mais c'est une question d'attitude aussi. Alors, ça veut dire que moi, je suis pas vraiment la personne qui va engueuler les gens, complètement bourré, à me faire pipi dessus sur un banc. Tu vois, genre, excuse-moi. Alors,
tu
témoignes. Non, mais
ah, tu veux que je sente?
Non, mais.
Ah bah ouais. Tu sens
ça va. Non, mais voilà. Alors, tu vois, là, on vient de démonter en direct les clichés sur les SDF sentent mauvais. Pourtant, j'ai dormi à la rue cette nuit.
Tu t'es réveillé à quelle heure ce matin?
Je bouge avant 8 heures d'où je dors. Parce qu'à partir de, tu vois, 8h10, 8h15, t'as les gamins qui vont à l'école et moi, ça me gêne.
C'est pour les enfants, c'est une question de dignité aussi.
Non, c'est pas parce que je suis dans la merde que je dois faire chier les autres. Et c'est souvent les endroits où je dors, par exemple, tu vois, les concierges, ils m'adorent. J'ai dormi longtemps devant une agence Pôle emploi. Et les filles de Pôle emploi, elles me sortaient le café le matin avec une petite viennoiserie, un truc. Je te jure, c'était hallucinant.
Et il garde le moral, Christian.
Et il est combatif. Sur Twitter, il réagit aux annonces du gouvernement, il envoie des photos, parfois choquantes. Le 25 décembre, il a posté donc la photo d'un dispositif anti-SDF qui était installé dans le 19e arrondissement de Paris. C'était deux plaques d'air chaud recouvertes de barrières, donc empêchant les SDF d'y dormir. Son tweet a été abondamment partagé et Anne Hidalgo a fait retirer l'installation deux jours plus tard.
Il faut dire que les dispositifs anti-SDF fleurissent un peu partout. Autre exemple, parmi d'autres, hein, sur le parvis de la gare de Rennes, des haut-parleurs de la SNCF diffusent de l'opéra et de la musique classique en boucle. Donc les répétitions des mêmes morceaux 24 heures sur 24 pour dissuader les SDF de s'installer.
Comment est-ce que tu peux, au lieu de vouloir aider quelqu'un, imaginer un stratagème pour installer un truc qui le fera partir? Après, est-ce que c'est humain? Chacun jugera.
Alors là, t'allumes ton téléphone. Twitter.
C'était à cet endroit-là que je dormais, tu vois, c'était un peu à l'abri.
Ah ouais.
Tu vois la photo, et c'est là que ils ont mis donc ce fameux bac à fleurs.
En béton.
Voilà, à la place. Ah, sinon, j'ai que des messages d'amour.
Tu reçois plein de messages. Il pleut toujours.
C'est le pire des temps. Froid et humide. L'humidité, elle rentre partout.
Qu'est-ce que tu fais de tes journées alors?
Je vole les aides sociales.
J'en suis sûre.
J'adore. Non, mais. Non, je fais pas mal de trucs au niveau bénévole dans plusieurs associations. Alors, je participe avec le collectif des morts de la rue parce que, bon, là, c'est 501 morts dans la rue en 2016.
4 personnes qui meurent tous les 3 jours.
Ouais, c'est plus d'une personne par jour.
La vie incertaine. C'est la vie complètement incertaine.
Écoute, là, donc, on est dans l'Est parisien, tu vois. On est à côté de la place du Colonel Fabien, pas loin de Jaurès, pas loin de Gare du Nord. Bon, t'as des fumeurs de crack, des gens qui prennent de l'héro. Moi, je sais pas s'il n'y a pas un mec qui va être complètement flippé à 2h du mat, qui débarque avec un couteau, qui me met 2 coups de couteau alors que je suis en train de dormir. Je suis mort, je me réveille pas demain, tu vois.
Tu connais des personnes à qui c'est arrivé, en tout cas de se faire agresser comme ça violemment?
J'ai une copine, Laurence, tu vois, elle s'est fait éclater une bouteille de vin vide sur la gueule. C'était quoi? Ça devait être début décembre. On prend toujours nos petits déjeuners dans une église le dimanche matin. Et je tombe sur Laurence, je dis « Mais ça va, toi ?» Elle dit « Ah non, ça va pas. » Et elle me montre. Elle avait 3 points de suture sur le lobe de l'oreille et 4 agrafes sur le cuir chevelu. Et un mec défoncé, il lui a pété une bouteille de vin vide sur la gueule. Voilà. Pour rien. Pour que dalle.
Et Christian, là, on est toujours sur le petit muret, là, place Sainte-Marthe. Puis il y a des hommes, 2, à côté de nous, là, sur la gauche. Mais je vois pas de femmes.
Bah, les femmes, tu les vois pas mal aux heures de distribution de nourriture. Elles évitent de traîner quand même trop dans la rue. C'est quand même dangereux d'être une femme à la rue, tu vois. Ah, excuse-moi, des actrices hollywoodiennes qui arrêtent pas de t'expliquer depuis un mois qu'elles se font agresser sexuellement, alors que les meufs, elles doivent avoir des gardes du corps payés des blindes qui ont des gros flingues. Alors, imagine aujourd'hui à Paris une femme à la rue. Toutes les associations à peu près. Hein. Quand il y a des distributions de nourriture, ils font une queue pour les femmes, tu vois. Parce que sinon, c'est des mains aux fesses, et je te touche les seins. Pourquoi tu me regardes, salope? T'as vu comment t'es habillée, sale pute? Tu vois, sinon, c'est le quotidien d'une femme à la rue, mais je te promets. Vas-y, va au commissariat, tu vas déposer plein de contre qui? Mais attends, laisse tomber. Il y a des chacals dans la rue, hein, je te jure.
Reportage d'Anaël Verzo. Qu'est-ce qu'il vous inspire, Christophe Robert?
Bah écoutez, ça fait le lien avec les enfants de Don Quichotte, c'est que je crois qu'il faut qu'on écoute chaque personne, il faut qu'on écoute ses récits, il faut qu'on écoute... parce que ça traduit, c'est très douloureux, enfin, très douloureux. Je crois que ça renvoie bien à la violence. Je trouve qu'il est même très positif, notre ami Christian, c'est-à-dire que...
il y a ouais, peut-être aussi un phénomène de...
Le vol, c'est dur, c'est vraiment dur. Le regard des autres aussi... Ouais. Le sentiment, et il y avait un témoignage tout à l'heure dans le reportage sur les enfants de Don Quichotte de cette femme qui dit, mais c'est peut-être moi qui ai peut-être fait quelque chose de mal dans ma vie, qui n'ai pas su gérer ma vie. Vous rendez compte ce que ça veut dire? Vous rendez compte? Ouais. C'est-à-dire que, bien sûr, sans doute, il y a beaucoup de personnes qui sont à la rue, qui ont des difficultés de dépendance à la drogue, à l'alcool, des problèmes psychiques, d'autres pas du tout, phénomène des travailleurs pauvres, mais quoi qu'il en soit, on a la responsabilité collective de tendre la main et de chercher des solutions durables pour les personnes. Donc, si on a une aversion, finalement, du problème, et où les gens se disent « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» et finissent par avoir honte, le nombre de personnes qui disent « j'ai honte pour mes enfants, que je ne vois plus, mais j'ai honte de leur avoir donné une image comme ça », on ne peut pas rester insensible à ça et on a le devoir d'agir.
Bien sûr. SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe, peut-être faudrait-il inventer un autre acronyme, SDD, sans logement décent, puisque dans votre rapport, il semble qu'il y a un phénomène là, qui s'accentue, c'est le mal-logement, le surpeuplement dans les logements, ça touche qui?
Ça touche beaucoup de monde, surtout les formes dures de surpeuplement. Mmh. Ce qui nous inquiète beaucoup avec le surpeuplement, c'est qu'en fait ce phénomène avait diminué depuis des décennies, et il est reparti à la hausse dans le début des années 2000. Plus 17% de surpeuplement dit accentué, c'est la définition de l'INSEE, c'est quand il vous manque deux pièces ou plus, et c'est souvent plus. Mm-hmm. Plus 17%, ça veut dire que notre modernité qui avait su, comme pour la question de la qualité du logement, faire évoluer positivement les choses, la taille normalement du logement, le fait d'avoir les toilettes à l'intérieur, de l'eau, ce qu'il n'y avait pas en 54 du temps de l'appel de l'abbé Pierre. Et puis là, on voit repartir à la hausse ce surpeuplement. Et ça s'explique, c'est-à-dire que, notamment dans les grandes villes, cher, trop cher pour beaucoup de ménages, ben il n'y a pas le choix. On se sert pour essayer de trouver un toit sur la tête, malgré tout, et on prend ce qu'on a avec les ressources que l'on a. Donc, ça a des conséquences très importantes sur la santé. On sait que ça contribue à l'échec scolaire. Ça a des conséquences très importantes sur le vivre ensemble, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, sur l'intimité du couple. Ça a des conséquences importantes sur la santé, parce qu'un logement surpeuplé, c'est un logement qui vieillit plus vite et qui peut vraiment occasionner des problèmes importants de santé. Et ce qui nous préoccupe énormément, c'est que les facteurs qui ont conduit à avoir augmenté le nombre de ménages en surpeuplement en France, eh ben, ils sont bien présents et on ne voit pas bien les tendances qui s'inversent. La cherté, trop cher loyer, trop cher charge.
Mais oui.
Le fait qu'on a des ressources de plus en plus modestes, le phénomène des travailleurs pauvres. Je veux rappeler quand même que dans ce pays, 1 million de pauvres en plus en 10 ans. Ça, c'est des chiffres qu'on ne sait pas, mais c'est la vérité. Et donc, il se passe quelque chose. Et c'est là où, quand on présentait notre rapport hier, on dit le gouvernement a enclenché une logique du logement d'abord, qui va quand même dans une logique plutôt positive. Mais d'un autre côté, il faut que ce soit toute la politique économique, sociale et du logement qui se réoriente, qui se recentre socialement.
Et la fin des APL, c'est pas franchement un signe qui va dans le sens de ce que vous dites?
Alors, c'est pas la fin des APL, heureusement.
Enfin, parce que là, on est non, dans la réforme des APL.
La réforme,
pardon.
Voilà. Ben non,
réforme.
Ben non. La réforme du logement d'abord que porte le gouvernement, qu'on avait proposé à Emmanuel Macron et aux autres candidats en campagne, elle est prise par ce gouvernement. Ça va dans le sens de ce qu'on demande depuis d'ailleurs l'installation des enfants. Donc, des vrais logements, pas des hôtels, pas de l'hébergement d'urgence. Mais si parallèlement, effectivement, on baisse les APL, on réduit la voilure sur les APL, on fragilise le secteur du logement social qui est quasiment la seule réponse pour pas mal de monde en difficulté. Ben d'un côté, on va améliorer la situation de mal logés avec le logement d'abord et puis on risque de provoquer de nouvelles fragilités dans le logement. Voilà, je crois que c'est vraiment une vision d'orientation politique générale qu'il faut faire vers un recentrage social.
Et ça veut dire que ce que l'abbé Pierre avait nommé l'insurrection de la bonté doit continuer?
Oui. Je disais hier, quand on présentait le rapport mal-logement, sur le mal-logement, devant pas mal de monde, le ministre était là, au fond, ça sera pas avec des tableurs Excel qu'on va régler le mal-logement. Parce que des coupes budgétaires, comme on les a vues sur les APL, ce sont des coupes aveugles. C'est des coupes injustes. Mais c'est avec le cœur. Donc il va falloir à un moment que nous tous, on s'interroge, les responsables politiques, locaux, nationaux, mais nous tous, qu'on demande autre chose, qu'on se dise, mais finalement, ça rejoint la question aussi des migrants, ça rejoint la question de l'autre, de celui qui à un moment a eu une galère. Parce que les galères, ça peut arriver à tout le monde. Et quand on a eu une galère, ou quand on en a eu beaucoup, eh ben on peut se retrouver à la rue. Mmh. Et il suffira pas de tendre la main en disant, allez, je vous donne votre chance une fois. Non, il va falloir tendre la main. C'est ce que faisait l'abbé Pierre. Parfois, il y aura des rechutes, il faudra la retendre. Il y aura des rechutes et il faudra la retendre.
Il faudra changer notre rapport à l'altérité, parce que l'autre, ça peut être nous demain aussi.
Aussi.
La mairie de Paris va organiser la nuit de la solidarité, où il nous reste quelques secondes. Vous allez vous y associer, pardon.
Oui, les associations. La Fondation Abbé Pierre, elle organise pas des maraudes, mais par exemple, Emmaüs Solidarité en Ile-de-France va s'y associer. Les expériences qu'on a vues d'autres pays qui se sont engagés là-dedans étaient plutôt positives, dans le sens où ça focalisait sur la question, ça permettait de savoir quels étaient les parcours des personnes. Évidemment, il ne suffit pas de se limiter au comptage et à l'identification. Il faut que ça soit pour adapter mieux les réponses. C'est ça.
Merci infiniment pour toutes vos réponses aujourd'hui dans cette émission, Christophe Robert.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les enfants de Don Quichotte, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons les ultras du PSG.